LFM, l'invité de Julie Martin.
La tension est à son comble au Moyen-Orient.
On en parle ce matin avec Mitra Sorabi. Bonjour. Vous êtes avocate suisso-iranienne, présidente de l'association Femmes, Vie, Liberté Suisse. On va parler avec vous donc de la situation en Iran. L'Iran qui est peut-être en train de tourner la page de la dictature des mollahs. Les États-Unis et Israël ont frappé ce samedi avec missiles et avions les centres névralgiques iraniens, entraînant la mort de Ali Khamenei. Comment vous vous sentez depuis ces derniers jours ?
Bah, assez anxieuse, je pense que c'est un peu le sentiment de toute la diaspora, en ce sens que depuis samedi, on ne va pas se mentir, il y a quand même un grand espoir qui est né de voir cette dictature enfin tomber, comme vous le disiez. Mais en même temps, bah, c'est aussi des images de guerre, hein, c'est évident. Donc des bombes sur Téhéran, sur d'autres villes du pays, des gens qui ont déjà beaucoup, énormément souffert de par cette dictature et puis qui se retrouvent dans cette situation guerrière. Donc c'est un peu spécial de regarder ça depuis l'étranger.
Pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de vivre en Iran ?
Alors, qu'est-ce que ça veut dire de vivre en Iran ? Déjà, peut-être, ce qui est important, c'est de vivre en Iran même avant que les bombes tombent samedi. Donc, il faut rappeler qu'il y a plus de 50% des Iraniennes et des Iraniens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, dans un pays qui a d'innombrables richesses. Et ça, c'est vraiment du fait de la politique du gouvernement. Donc, c'est des difficultés à pouvoir se nourrir, à pouvoir nourrir sa famille. Et puis ensuite, c'est un État qui est policiers, si vous voulez, vous sortez de chez vous et vous avez des risques très concrets de mourir, de voir vos enfants emprisonnés, toute votre vie, si vous voulez, est surveillée par cette République islamique. Je rappelle quand même qu'au mois de janvier, les gens sont sortis dans la rue pour manifester, pour, disons, crier leur volonté que ce régime parte. Et puis la répression a été terrible, hein. Les ONG qui essayent aujourd'hui encore de vérifier les morts font état d'un minimum de 36 000 personnes tuées en deux jours. On est plutôt sur un bilan entre 40 et 50 000. Et puis aujourd'hui, de vivre en Iran, c'est évidemment de voir les bombes tomber avec zéro soutien de son gouvernement, parce qu'il faut bien voir que c'est un pays où, en fait, quand vous êtes sous les bombes, il n'y a pas, comme si vous voulez, on a vu en Israël ou dans d'autres pays, des abris, une annonce du gouvernement qui dit allez vous mettre à couvert. Il n'y a pas de soutien. Les hôpitaux marchent très très mal, sont encore sous le flot des massacres qui ont été commis en janvier. Donc c'est pour résumer un tout petit peu, c'est cette situation-là que vivent les Iraniens.
Mitra Sorabi, vous l'avez rappelé, il y a eu des manifestations donc en janvier dernier. Il y a également eu l'été dernier la guerre des 12 jours. Est-ce que c'est ça qui explique la mort d'Ali Khamenei ? C'est ça qui explique qu'elle arrive maintenant ?
Oui, alors bon, si vous voulez, ça fait déjà plusieurs années que vous entendez dans les rues iraniennes scander « mort au dictateur, mort à Khamenei », ce qui explique finalement que samedi soir, quand la mort du guide suprême a été confirmée, il y a eu des scènes de liesse dans les rues iraniennes, ce qui peut, sur le principe, si vous voulez, choquer une partie des sociétés civiles en Occident qui se dit « mais dans le fond, quelqu'un est mort », puis qui ne connaît peut-être pas exactement le bilan de ce monsieur, mais c'est quelqu'un qui est responsable directement de la mort, effectivement, de, en tout cas, 36 000 personnes en janvier, et puis surtout de la répression qui a cours en Iran depuis 47 ans. Je rappelle quand même que lors de la révolte Femmes, Vie, Liberté en 2022, qui a aussi été réprimée dans le sang, il y a une mission d'enquête qui a été ordonnée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, et puis cette mission a donné lieu à un rapport de plusieurs centaines de pages qui dit, après avoir entendu un certain nombre de témoins, hein, c'est une investigation longue, que des crimes contre l'humanité ont été commis et qui nomme vraiment Ali Khamenei comme le premier responsable.
Depuis samedi, il y a une escalade, c'est peu de le dire, de la violence avec des frappes en Iran, mais aussi au Moyen-Orient de façon un petit peu généralisée maintenant. C'est encore trop tôt pour mesurer les conséquences de la guerre sur le Moyen-Orient, mais la Russie et la Chine ont perdu un allié de taille. Est-ce que vous craignez une escalade encore plus grande de la violence aujourd'hui ?
Bon, la violence, c'est sûr qu'on est dans la guerre, donc escalade de la violence, c'est-à-dire que quand des bombes tombent et puis qu'il y a une réplique ou plusieurs répliques plutôt, c'est sûr qu'on est le spectateur de ça. Maintenant, ce qu'on constate surtout, c'est que l'Iran, la République islamique, pas l'Iran, la République islamique est seule, parce qu'on voit bien qu'on a parlé souvent du fait que les alliés chinois et russes étaient très importants, allaient aider, et puis force est de constater que ce n'est pas le cas. Donc la République islamique est seule face aux bombes américaines. Effectivement, il y a une sorte de, je ne sais pas s'ils ont paniqué ou si c'était contrôlé, ils avaient dit qu'ils allaient bombarder en réplique les pays alliés des États-Unis, mais enfin c'est quand même un peu particulier de voir des bombes tomber sur les Émirats, par exemple, sur des pays qui étaient contre en fait l'entrée en guerre des États-Unis et d'Israël contre la République islamique. On ne sait pas finalement ce qu'ils vont faire, mais c'est vrai que on entend souvent dans la presse depuis 2 jours, parce que c'est une guerre qui a commencé samedi matin, donc c'est tout frais. C'est clair que personne ne pensait que les choses auraient été faites en 3 à 4 jours. Aujourd'hui, c'est très très tôt. On ne sait pas du tout ce que la République islamique dispose encore en termes de stock de missiles. Est-ce qu'elle va pouvoir répliquer pendant longtemps? On ne sait pas non plus au niveau des États-Unis ce qu'ils vont faire dans les jours qui viennent. C'est vrai qu'on a un président américain qui a un discours un peu changeant et puis parfois peu clair. Hein. On connaît, je crois, tous en Europe pendant Donald Trump. Donc c'est un petit peu difficile aujourd'hui, mercredi, après 5 jours, de pouvoir donner un bilan très clair et puis de pouvoir faire une analyse de ce qui va se passer. J'entends beaucoup de gens qui le font, grand bien leur fasse. Moi, je suis bien incapable, pour être honnête.
Encore juste une question, Mitra Sorabi. Qu'est-ce que vous pensez de la position actuelle de la Suisse face à l'Iran?
Bon, il n'y a pas de position, pour être tout à fait clair avec vous. C'est-à-dire que on a vu déjà une mollesse, voire une absence de position pendant tous ces mois où la répression a été absolument sanglante. Et puis maintenant que c'est la guerre, alors j'ai entendu des posts sur les réseaux sociaux où la Suisse se tenait à disposition pour retourner vers la voie diplomatique. Je ne comprends pas le discours, j'entends, c'est hors sol par rapport à la situation que l'on vit maintenant. Ils sont un petit peu à côté de la plaque. Hier, Mojtaba Khamenei, le fils de Khamenei, a été nommé guide suprême à la place de son père. Et pendant la nuit, vous avez déjà les Iraniennes et les Iraniens qui scandaient de leurs fenêtres mort à Mojtaba Khamenei. Donc, ils sont assez clairs dans leur vision des choses. Aller discuter avec ces gens-là, c'est totalement à côté de la plaque. Donc, il n'y a pas de position. Et puis, les quelques prises de parole qui émanent du DFAE, de Ignacio Cassis, de ses représentants, c'est mou à souhait, pour être poli.
Mitra Sarabi, vous êtes avocate suisse-iranienne, présidente de l'association Femmes, Vie, Liberté Suisse. Merci d'avoir été avec nous ce matin.
Merci à vous.
Il est 7h28 sur LFM.